Il est midi sur Radio Orient. Bonjour à tous. Le journal Loïc Barrière. En Turquie, 22 personnes arrêtées après l'attentat de dimanche à Istanbul. Selon Ankara, la poseuse de bombes est de nationalité syrienne. Les autorités accusent le PKK. Emmanuel Macron se dit favorable à des sanctions ciblées contre des personnalités du régime iranien responsables de la répression des manifestations. Un accord entre Paris et Londres sur la traversée des migrants qui tentent de rejoindre le Royaume-Uni. La France va augmenter ses effectifs policiers de 40% pour effectuer des contrôles. Dans cette édition, nous ferons le point sur le projet de loi sur l'immigration qui sera discuté début 2023 avec Pierre Henry, président de l'association France Fraternité. Enfin, le G20 en Indonésie, l'occasion d'évoquer notamment la question du statut de Taïwan. Au lendemain de l'attentat d'Istanbul, 22 personnes ont été arrêtées, notamment la personne qui a posé la bombe. Il s'agit, selon les autorités, d'une femme de nationalité syrienne. Selon Ankara, elle a reconnu avoir agi sur ordre du Parti des travailleurs du Kurdistan. Elle affirme avoir reçu des directives en ce sens à Kobané, dans le nord-est de la Syrie. Dimanche soir, le président Erdogan a promis que les auteurs de l'attentat seraient punis. L'attentat a fait 6 morts et plus de 80 blessés. La justice iranienne a récemment inculpé près de 800 personnes pour avoir participé à des émeutes dans plusieurs régions du pays. Depuis le début des manifestations, ce sont plus de 2000 personnes au total qui ont été inculpées, dont la moitié à Téhéran. La justice a par ailleurs prononcé la première condamnation à mort liée à ces manifestations. Sur France Inter ce matin, Emmanuel Macron a rendu hommage au courage des femmes iraniennes. Le président français s'est dit favorable aussi à des sanctions ciblées visant des personnalités du régime qui ont une responsabilité dans la répression des manifestations. Hier soir, des frappes israéliennes ont visé la Syrie. Les attaques ont visé des sites dans la province de Homs, notamment la base aérienne d'El Shairat. Selon Damas, 2 soldats syriens ont été tués. Le ministre français de l'Intérieur, Gérald Darmanin, et son homologue britannique, Suella Braverman, ont signé un nouvel accord pour lutter contre les traversées de migrants dans la Manche. L'accord prévoit notamment que les Britanniques verseront 72,2 millions d'euros à la France. En échange, Paris augmentera de 40% ses forces de sécurité sur les plages d'où partent les migrants à destination du Royaume-Uni. Le projet de loi sur l'immigration sera débattu au début de l'année prochaine. Son contenu a été partiellement annoncé. Le ministre du Travail, Olivier Dussopt, et le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, veulent créer un titre de séjour métier en tension pour les travailleurs sans papier déjà en France, à côté de mesures visant à améliorer les reconduites à la frontière. Entretien avec Pierre Henry, président de France Fraternité, ex-directeur général de France Terre d'Asile.
Les projets de loi sur l'immigration, c'est un peu le marronnier des politiques. Je veux dire par là que tous les deux ans, on présente une loi sur l'asile, l'immigration, et on la présente comme absolument indispensable au bonheur et à l'équilibre de la nation. Ce qui donne un droit des étrangers tout à fait illisible, abscons, complexe et des polémiques sans fin. J'ai bien entendu la proposition qui est faite par le gouvernement. Il est vrai qu'il y a des métiers en tension qui n'arrivent pas à trouver preneur parce que ces métiers sont difficiles, avec des horaires décalés, sont souvent très mal payés. Et il est vrai aussi qu'un certain nombre de personnes étrangères, parfois en situation irrégulière, va occuper ces fonctions. C'est vrai, par exemple, dans la restauration, dans le ménage, dans le bâtiment, voilà, dans les métiers de l'agriculture, de la récolte. Et donc, sur le principe, dire on va créer un titre de séjour métier en tension, pourquoi pas ? Pourquoi pas, mais le problème, c'est que en matière d'immigration, le détail, le diable se cache dans les détails, et que pour l'instant, nous ne savons rien de ce titre de séjour. Est-ce que c'est un titre qui est renouvelable ? Est-ce que c'est un titre qui permettra le regroupement familial ? Parce que c'est bien beau de faire des titres de séjour travailleurs, en fait, métiers sous tension, mais ces personnes ont aussi le droit de vivre en famille. Donc, est-ce que ça leur permettra, y compris le cas échéant, de le faire ? Est-ce que, oui, c'est renouvelable ? Quelle durée ? Est-ce que ça débouche sur un titre long séjour ? Écoutez, pour l'instant, on est un peu dans le flou et on est dans la stratégie habituelle du gouvernement sur ces questions. Évidemment, dès que vous parlez de titre de séjour, le Rassemblement national, une partie des droites, crie au scandale, à la régularisation des sans-papiers. À l'inverse, s'il y a des mesures coercitives extrêmement dures, bah, c'est plutôt la gauche de la gauche qui va hurler. Mais au final, ça ne fait pas forcément un projet équilibré.
Ce futur projet de loi qui doit introduire une série de mesures pour rendre les obligations de quitter le territoire français plus efficaces. Et le gouvernement dit vouloir notamment inscrire les immigrés menacés d'expulsion au fichier des personnes recherchées. Est-ce réalisable et serait-ce efficace ?
Le problème, c'est qu'une fois de plus, on pose la question des OQTF de la mauvaise manière. Les OQTF en France sont abondantes. C'est un acte administratif banal pratiqué par les préfectures. Vous avez moindre problème avec un document de séjour. Allez, boum, une OQTF. On ne vérifie pas les conditions dans lesquelles vous vivez. Et du coup, nous avons en France l'habitude de distribuer deux fois plus d'OQTF que notre voisin allemand, qui au passage reçoit plus de personnes étrangères que nous. Et donc, il y a un petit sujet là. Et le sujet, il est tout simplement que nos partenaires allemands, eux, regardent d'abord si la personne peut éventuellement avoir un accès au séjour, celui à un quelconque titre, que la raison pour laquelle on lui a donné une OQTF. Donc, c'est la raison aussi pour laquelle nos partenaires allemands ont un taux d'exécution des OQTF beaucoup plus élevé que le nôtre. Donc si on commençait par prendre le sujet avec réalisme, pragmatisme, peut-être que le débat serait plus sain.
La France, qui a toujours été l'un des premiers pays de l'Union européenne à émettre le plus d'OQTF, d'obligation de quitter le territoire français, mais c'était également l'un des pays qui est le moins efficace.
Ça va ensemble, parce que le débat autour de l'immigration et de l'asile est terriblement instrumentalisé. Et donc, et de toutes parts, les étrangers sont les boucs émissaires commodes pour un certain nombre de politiques. Suivez mon regard à la droite de la droite et à l'extrême droite, mais également pour d'autres formations qui utilisent cette question pour parfois prendre un certain nombre de postures. Donc voilà, c'est le sujet. Donc les OQTF, soyons clairs, qu'il y ait un certain nombre de personnes qui représentent une menace actuelle établie pour l'ordre public, qui sont des délinquants ou des criminels, qu'ils soient éloignés du territoire, franchement, personne ne s'en plaindra. Mais diable, pourquoi à partir de là faire un amalgame de toutes ces situations. Nous connaissons tous autour de nous des personnes qui ont eu leur OQTF, qui travaillent, ensuite ont été régularisées ou qui reçoivent des OQTF avec un pays de retour qui n'est pas le leur, etc., ce qui montre qu'en fait, on est dans le copier-coller dans la délivrance des OQTF dans les préfectures. Donc, encore une fois, abordons ce débat avec pragmatisme et puis le pays ira peut-être sur la voie de l'apaisement. Mais hélas, nous n'en prenons pas le chemin.
Pierre Henry, président de France Fraternité, ex-directeur général de France Terre d'Asile, il répondait à François-Xavier de Calonne. La France a demandé à l'Europe de se prononcer très rapidement sur les suites à donner après le refus de l'Italie d'accueillir le navire Ocean Viking et ses 230 migrants, un navire accueilli finalement vendredi au port militaire de Toulon. Le président Zelensky s'est rendu à Kherson, ville du sud de l'Ukraine reprise aux Russes la semaine dernière, une ville occupée par l'armée russe pendant 8 mois. Joe Biden et Xi Jinping se sont retrouvés à Bali lors du G20. Il s'agit de leur première rencontre depuis l'élection du président américain. Parmi les sujets de discussion, le statut de Taïwan après la visite controversée de Nancy Pelosi dans l'île il y a quelques mois. Au début de cette rencontre, Joe Biden a dit espérer pouvoir éviter un conflit. Enfin, l'invité de la bibliothèque de Radio Orient hier soir était Guy Dugas, professeur des universités et directeur littéraire des éditions El Kalima à Alger. Il a notamment créé la collection Les Petits Inédits Maghrébins. Il s'agit d'une collection de poches de textes inédits découverts dans des fonds d'archives en France ou au Maghreb. Il a ainsi publié un inédit du poète et romancier algérien Rabah Belamri. Comment cette collection est-elle née? On écoute Guy Dugas.
Les éditions El Kalima sont une petite maison située à Alger, une toute petite structure. Nous y sommes 3 et je m'occupe essentiellement de la dimension francophone avec plusieurs collections. Effectivement, j'y suis directeur littéraire, c'est-à-dire que je ne m'occupe pas seulement de cette collection de petits inédits maghrébins que j'ai constitué, mais également d'autres publications et notamment d'un certain nombre de romans de jeunes auteurs du Maghreb.
Alors, il s'agit d'une collection de poches de textes inédits découverts dans des fonds d'archives en France ou au Maghreb. Comment cette collection est-elle née? Dans quel état d'esprit l'avez-vous créée?
Nous sommes partis du constat, du double constat finalement, qu'il existe quantité de fonds d'archives inexploités, souvent mal conservés d'ailleurs, ici ou là, sur une rive ou sur l'autre de la Méditerranée. Ça, c'était le premier constat. Et le deuxième constat, qui est plus général et en même temps plus particulier au Maghreb, aux relations entre le Maghreb et la France, c'est que la littérature a aussi un rôle à jouer dans ce travail de mémoire dont on parle tant actuellement. Et que si les archives historiques peuvent poser quantité de problèmes, les archives littéraires sont au contraire un trait d'union entre nos deux pays. L'exemple type, c'est évidemment l'œuvre de Jean Sénac, mais aussi celle de Rabah Belamri, mais aussi celle de Kateb Yassine, qui sont des écrivains à cheval sur une rive et l'autre de la Méditerranée.
Ça peut être des textes autobiographiques, ça peut être des poèmes, ça peut être aussi des extraits de correspondances littéraires.
Voire des pièces de théâtre également. Nous avons publié une pièce de théâtre inédite de Mohamed Dib, par exemple. Tout texte que les ayants droit veulent bien mettre à notre disposition.
Alors j'ai la chance d'avoir entre les mains un texte de Rabah Belamri intitulé Amel, suivi d'un autre texte appelé La Falaise, présenté par son éditeur René de Secati. Si on prend l'exemple de Rabah Belamri, il est décédé en 1995. Son épouse Yvonne Belamri a ensuite continué à entretenir sa mémoire et a fait connaître son œuvre, mais elle est décédée également. Je crois que c'est un des frères de Rabah Belamri,
Bachir Belamri,
qui aujourd'hui s'occupe de son œuvre. Comment on publie un inédit de Rabah Belamri, l'auteur de Regard blessé. Il faut quand même dire à nos auditeurs qu'il faut lire toute son œuvre.
Oui, bien, justement, c'est un cas tout à fait exemplaire, celui de Rabah, parce que, effectivement, comme vous l'avez dit, après son décès brutal, prématuré, Yvonne a continué son œuvre, mais évidemment, nul n'est immortel, et Yvonne n'est plus là également. Et donc, c'est Bachir qui se retrouve dans un petit village d'Algérie, avec ses archives. Il est important que la mémoire des écrivains ne disparaisse pas après leur propre disparition, et puis la disparition de ceux qui tentent de les faire vivre, comme l'a fait Yvonne. C'est un peu ce qui se passait, malheureusement, pour Rabah. Ces dernières années, il est un peu tombé au purgatoire, que ce soit en Algérie ou que ce soit en France. Donc il était important que ressurgisse sa mémoire, et c'est pour ça que nous avons republié également certaines de ses œuvres qui avaient été publiées chez Publisud, je crois, dans les années 80-90. Notre action a également pour but d'aider, autant que faire se peut, ses ayants droit à organiser ses archives et à les valoriser.
Guy Dugas, professeur des universités et directeur littéraire des éditions El Kalima à Alger, il était l'invité de la bibliothèque de Radio Orient ce week-end, une émission que vous pouvez retrouver sur radioorient.com. L'invité de Pluriel ce soir à 19h et 23h sera Anas Kazib, cheminot et syndicaliste Sudrail, porte-parole de Révolution Permanente. Je vous retrouve à 17h30 pour le journal. Excellente journée à l'écoute de Radio Orient.